Bien. Je vous remercie d'être là, toujours aussi nombreux, c'est impressionnant. Je vous avais laissé l'année dernière dans un commentaire sur l'œuvre de Wilfrid Blunt, The Future of Islam, ce texte tout à fait étrange, puisqu'il est à la conjonction entre les projets personnels de l'aventurier britannique et ceux qui pouvaient se dire dans le cercle de Mohamed Abdou au Caire. Alors, il faut ajouter, bon, Blunt a écrit un certain nombre d'autres ouvrages, et il a écrit publié en 1907, une histoire secrète de l'occupation anglaise de l'Égypte, qui va donner sa version des événements, qui est importante, puisque pratiquement tous les autres protagonistes des événements de 1882 vont répondre à Blunt pour essayer de contester sa version des faits. Et alors, dans ce qui nous intéresse là immédiatement, dans le texte de 1907 et puis pas de 1882, c'est qu'il explique que c'est au Caire pour la première fois qu'il a entendu parler d'un homme puis de génie puissant, le cher Jamal ed-Din el-Afrani, qui vient d'Asie centrale. Et il explique qu'Afrani est le premier à avoir compris qu'au lieu d'imposer des réformes européennes par le haut, il vaut mieux reconsidérer toute la pensée islamique en fonction des connaissances modernes. Et l'audace de la prédication d'Afrani s'appuie sur une maîtrise parfaite du savoir islamique. Et toujours selon Blunt, Afrani a ainsi constitué tout un parti libéral de la réforme. Alors, on verra, dans les années à venir, Blunt et Afrani auront un compagnonnage dans les années 1880. Quand Afrani rentrera de l'Inde et qu'il ira en Europe, Blunt sera l'un des correspondants d'Afrani. Donc, pour le texte de 1907, ça se comprend comme cela. Et donc, Blunt raconte qu'à Damas, il a, lui, Blunt, tenté de lancer son idée de califat arabe. Et il a demandé à l'un des fils d'Abdelkader de sonder son père pour savoir s'il voulait prendre la direction du mouvement envers le califat arabe. Et toujours selon Blunt, le vieux chef algérien a fait répondre qu'il était trop vieux pour prendre ce commandement, mais que ses fils pourraient y jouer un rôle actif, lui-même pouvant néanmoins accepter d'être choisi comme calife. Néanmoins, le pouvoir ottoman est trop fort pour qu'un soulèvement syrien puisse avoir lieu sans soutien de l'étranger, aurait ajouté Abdelkader. Cette information donnée par Blunt est évidemment contestable, puisqu'il n'a pas rencontré Abdelkader, il n'a discuté qu'avec un fils de Abdelkader, et on a déjà vu que plusieurs fois, Abdelkader a rejeté les propositions européennes qui lui avaient été faites de se créer une royauté ou une vice-royauté syrienne. Mais il est vrai aussi que depuis tout le début de sa carrière, dans les années 1830, Abdelkader a toujours été un adversaire des Ottomans. Et donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un élément à considérer. En tout cas, Blunt a transmis son projet de faire d'Abdelkader un calife arabe à un secrétaire du Premier ministre britannique Gladstone, qu'il a reçu une réponse elliptique qui dit dans le style que le contexte actuel ne se prête pas à un tel projet, mais cela ne veut pas dire qu'un jour l'ordre des choses puisse être modifié. Bon, tout ça, évidemment, est indiqué par Blunt dans son histoire secrète, ce qui pose toujours des problèmes. Alors là, maintenant, nous allons passer à la prise de pouvoir par le Parti national. Là, vous avez une caricature française de l'époque assez amusante, avec comme légende « Dites-moi, colonel, c'est mon sabre que vous avez là, celui qui défend les institutions et les combats aux besoins ». Ceci est une référence pour ceux qui ont de la culture du XIXe siècle à un passage célèbre des mémoires de Joseph Prud'homme d'Henri Mounier, sous la monarchie de Juillet. Alors, deux mémoires, parce que je n'ai plus le texte sous les yeux, je n'ai pas vérifié, mais une mémoire, c'est Prud'homme recevant un sabre et disant « En général, ce sabre est le plus beau jour de ma vie ». Je m'en servirai pour défendre les institutions et au besoin de les renverser. Ça explique cette caricature de 1881 qui fait donc référence dans un contexte égyptien à ce passage de Joseph Prud'homme. La tension est très forte entre les colonels et le pouvoir du Khedive, et donc les militaires ont décidé de faire un coup de force préventif à la fin de l'été. Alors il faut savoir qu'à l'habitude en Égypte, à cette époque-là comme à d'autres d'ailleurs, en été tout le monde, enfin toute la classe dirigeante se transporte à Alexandrie à cause de la chaleur. Donc le Khedive est à Alexandrie, etc. La journée du 9 septembre 1881 est une certaine confusion puisque les unités militaires bougent dans tous les sens, on ne sait plus à qui elles obéissent, mais au début de l'après-midi, il est clair que c'est Orabi qui l'a emporté et il impose ses revendications qui sont transmises au Khedive par l'intermédiaire des consuls européens. Vous voyez toujours ce rôle fondamental des Khedives à l'intérieur du système politique égyptien, des consuls à l'intérieur du système égyptien. Donc les revendications sont toujours les mêmes. L'armée de 18 000 hommes, les fortifications d'Alexandrie, le renvoi du ministère Riaz, et la désignation de Mahmoud Sami el-Baroudi au ministère de la guerre et la convocation de l'Assemblée des députés. Donc là, cette fois, Riaz Pacha est obligé de quitter le pouvoir et donc la seule personnalité égyptienne qui puisse être acceptable pour tout le monde, c'est Chérif Pacha. Alors, j'ai déjà eu l'occasion l'année dernière de vous parler de Chérif, qui est l'exemple même de cette aristocratie turco-circassienne en voie de formation, puisque son père faisait partie de la beït de Mohammad Ali, de l'entourage du premier vice-roi. Et ensuite, lui-même a fait carrière sous Ismaïl, et il parle un français parfait. Il représente la terre de la classe des grands propriétaires fonciers et c'était un des hommes clés du système politique égyptien. Alors, d'un côté, il se présente comme libéral, mais de l'autre côté, pour lui, il est pratiquement impensable qu'un Égyptien de souche puisse avoir une position d'autorité forte dans le pays, puisque ce qui est le paradoxe de cette classe de turco-circassiens, ils se sentent propriétaires de l'Égypte. Mais comme ils sont propriétaires de l'Égypte, ils sont égyptiens. Si vous comprenez la logique dans laquelle ces gens se trouvent. Chérif a le soutien de l'armée, des consuls, et il est acceptable pour le calife. Alors, à Paris, notre ami Barthélemy Saint-Hilaire considère qu'il est exclu d'avoir recours à une intervention militaire ottomane à cause du danger que représente le panislamisme, je cite. « Les passions qui agitent les populations musulmanes, le redoublement de fanatisme qui excite en ce moment contre les nations chrétiennes le monde de l'islam, enfin les dispositions dont le sultan actuel se montre personnellement animé à notre égard, et le désir qu'a manifestement ce prince d'étendre ou de raffermir son autorité dans tous les territoires habités par les mahométans, en les détachant autant que possible de l'influence des peuples de l'Occident, doivent nous faire envisager avec une défiance extrême une intervention turque sur les bords du Nil. Ça va être la ligne rouge de la politique française durant toute l'année de crise. La France est absolument opposée d'un retour militaire des Ottomans en Égypte. Sharif, lui, se fait prier, ce qui permet de se mettre en meilleure position de force. Son idée, c'est de s'appuyer sur la notabilité provinciale égyptienne afin de pouvoir contrebalancer le poids de l'armée dans les affaires publiques. Et c'est donc l'idée qu'il se présente comme libéral de procéder à une désignation d'une chambre des notables, ce qui lui donnerait le moyen de contrecarrer le pouvoir militaire. Les Britanniques sont comme les Français, ils sont réticents sur une intervention militaire ottomane, mais ils proposent que les Ottomans envoient un général conseiller le Khédive, c'est-à-dire faire une médiation entre le Khédive et les colonels. Et la question est de savoir pour le Khédive lui-même ce qu'on peut en penser, parce qu'on le soupçonne de vouloir provoquer une intervention militaire étrangère, soit ottomane, soit européenne, pour se faire rétablir dans la plénitude de ses pouvoirs. Alors, vous avez un jeu compliqué d'intrigue, de contre-intrigue, puisque la théorie du complot satisfait tout le monde. On soupçonne les Khédives, les intrigues de l'ancien Khédive Ismaïl, qui est en exil en Italie. Et c'est vrai qu'il essaye de jouer sur un certain nombre de ses anciens soutiens. Les intrigues du prince Halim, toujours le même, celui qui aurait dû hériter du Khédivia à la place de Tewfik et qui est à Constantinople. Alors que les Européens, on l'a vu, soupçonnent Abdulhamid d'un complot pan-islamique, lui, il soupçonne les Européens d'un complot arabe contre sa personne. Autrement dit, chacun va agir en fonction des complots supposés de l'autre, qui sont en général des purs fantasmes, mais c'est comme ça que les complots sont les moteurs de l'histoire, non pas par leur réalité, mais par les comportements qu'ils induisent chez les uns et chez les autres. Alors, dès le 9 septembre, Tewfik s'était adressé par télégraphe à Abdulhamid pour lui demander une intervention militaire. Et Abdelhamid lui avait répondu en demandant des informations plus précises. Le 11 septembre, Khedive lui avait répondu qu'il y avait deux causes au mécontentement. Le fait que l'Égypte soit sous domination turque et européenne et que la richesse du pays soit engagée dans le paiement de la dette. Il avait ajouté qu'il ne savait pas qui était derrière le mouvement. Tout ce qu'il pouvait dire était que le journal Abu Nadara, c'est-à-dire de Jamsanoua, qui était le grand journal satirique d'opposition, était publié à Paris et qu'il était financé par le prince Halim et qu'il arrivait clandestinement en Égypte, évidemment par le biais des postes consulaires, puisque je rappelais, les puissances européennes avaient un système postal particulier, ça faisait partie des capitulations. Dans le même temps, Abdulhamid avait fait savoir aux Français et aux Anglais que pour lui, il était inacceptable que l'on puisse faire une constitution en Égypte, parce que ce serait donner le mauvais exemple, alors que lui venait de suspendre la constitution ottomane. Donc là, vous avez un portrait de Sherif Pacha, qui est chargé de former le nouveau gouvernement. Et Shérif apparaît comme l'homme du compromis, avec un programme de gouvernement. Il s'empresse de communiquer aux consuls français et britanniques soi-disant pour obtenir des conseils, c'est-à-dire en fait pour obtenir l'approbation des consuls. Il se présente donc dans la continuité des réformes financières entreprises sous Riaz Pacha. Et il ne veut pas du tout remettre en cause le contrôle financier franco-britannique. En revanche, il veut établir un système de séparation des pouvoirs en Égypte entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif, et donc établir un système plus ou moins libéral en Égypte. Alors, c'est là, on est toujours dans les paradoxes habituels. Riaz, qui était un autoritaire, avait fait entrer des Égyptiens de souche au gouvernement, dont le célèbre Ali Pacha Moubarak, qui est un des grands personnages de l'Égypte de la fin du XIXe siècle. En revanche, Chérif, qui se présente comme libéral, n'a que des Turco-Circassiens dans son gouvernement. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention sur ces détails et que le clivage est plus compliqué entre turco-circassiens et égyptiens de souche. Ce qui est clair et net dans les sources, c'est que la demande est unanime en Égypte pour la réunion d'une chambre des représentants et la rédaction d'une constitution. Dans ses mémoires, je rappelle ce qu'on appelle les mémoires de Rabé, c'est-à-dire le texte qu'il a déposé pour sa défense à la fin de 1882 quand il passera devant un tribunal, il marque que l'existence d'une chambre de représentants permettra de garantir à la nation égyptienne, il utilise le terme al-umma al-misriya, la sécurité des biens et des personnes et leur dignité. Donc là, on a la vieille revendication de l'élite égyptienne d'un état de droit, puisque ce que l'élite égyptienne craint depuis le début, c'est que le Khédive s'empare de ses biens et éventuellement les fasse assassiner, ce qui était déjà arrivé encore, enfin ce qui était encore arrivé à l'époque d'Ismaël Pacha. En même temps, il dit, ce qui est très intéressant, il dit que ces lois doivent être sur le même modèle que celles des tribunaux mixtes. Ce qui fait qu'il présente les tribunaux mixtes comme un modèle de législation pour l'Égypte. Les tribunaux mixtes qui viennent d'être établis, donc sont les tribunaux dans lesquels, quand il y a une affaire touchant un Européen et un Égyptien, c'est les tribunaux mixtes où siègent des juges européens et des juges égyptiens qui décident, enfin, des juges occidentaux puisqu'il y a un juge américain dans les tribunaux mixtes. Et la base juridique des tribunaux mixtes, c'est le code Napoléon. C'est comme ça, c'est le droit français. Donc ça a gassé les plus tard les Britanniques, mais ça c'est une autre affaire. Parce que vous savez, les Britanniques, ils adorent défendre les indigènes, les matières dans la culture, mais ils leur imposent quand même la common law, ce qui donne ensuite des associations de choses assez épouvantables. Je peux vous garantir que le droit palestinien, qui a été un mélange de droit ottoman et de common law britannique, est quelque chose d'assez incompréhensible de nos jours. Ça, c'est bon, c'est une autre histoire. Pendant ce temps-là, Abdallah Nadim, le grand homme de presse, lance une campagne qui présente Orabi Pacha, enfin Orabi pour l'instant, il n'est pas encore Pacha, comme le libérateur de l'Égypte des différentes formes d'oppression qui l'étouffent. Et tout le discours consiste à dire que la Constitution n'est pas incompatible avec le respect des obligations créées pour l'Égypte par la dette égyptienne. Après tout, disent les tenants du les constitutionnalistes, l'Égypte est dans un état de civilisation plus avancé que celui de l'Angleterre ou de la France quand la France et l'Angleterre ont adopté des constitutions. Ce qui pose un problème parce que trouver une constitution en Grande-Bretagne, mais pas bon, ça c'est un autre sujet. De plus, il s'agit d'une question intérieure égyptienne dans lequel les étrangers n'ont pas compétence pour intervenir. Tout le monde a intérêt à mettre fin au despotisme khédivial, les Égyptiens comme les Européens. Alors, cela, il faut bien comprendre, au début des années 1880, on est dans la foulée des mouvements réformistes des décennies précédentes, avec la conviction dans les élites ottomanes que les institutions représentatives sont l'un des moteurs de l'avance européenne sur les pays d'Orient. Et donc, et c'est ça le problème, c'est pas vraiment la question de la représentativité politique qui intéresse les réformateurs, c'est plutôt l'idée de rattrapage de l'Europe qui est considérée comme le véritable objectif. Et je pense que ça, c'est un défaut de fabrication un peu général de tous les programmes politiques arabes qui ont toujours été conçus dans une optique de rattrapage par rapport à l'Europe et à l'Occident. Donc, successivement, on pourra adopter le libéralisme, le nationalisme, le marxisme, voire l'islamisme, puisque, en réalité, à chaque fois, ces programmes politiques ont plus été considérés comme des instruments de rattrapage que comme des buts en soi. Même si, évidemment, on a toujours eu des gens qui étaient sincèrement marxistes, nationalistes, islamistes, etc. Mais il y a toujours eu une vision instrumentale des programmes politiques dans le monde arabe, parce que la réalité, elle est là de façon permanente, c'est l'antagonisme par rapport à l'Europe et à la domination européenne. D'où le discours de l'époque, par exemple des articles des journaux, qui affirment la compatibilité entre les principes de l'islam et les valeurs dites européennes. Je vous cite un article de cette époque. « Il est étonnant de voir des puissances dont nous ne dépendons pas faire leur possible pour nous forcer à vivre à leur guise. C'est contre toute règle, quand bien même nous serions dans les meilleurs thèmes avec cette puissance, que nous parlerions la même langue et que nous serions de la même nationalité. Nous vivons selon les lois de Dieu, inscrites dans le Coran et pratiquées par nos saints, lesquels exigent toujours et partout la réorganisation des pays, les rapports de bon voisinage avec les autres nations, le bonheur et la sécurité des peuples. Nous pensons que les Européens croient que l'équité et l'égalité sont européennes et qu'on ne peut pas les faire sortir de l'Europe et les implanter dans les meilleurs états de l'Orient. Sans cela, pourquoi veulent-ils intervenir dans nos pays opulents et puissants ? » Donc, nous sommes en 1881, pas en 2011, pardon. Nous ne craignons pas que son Excellence l'élu Shérif Pacha soit trompé par les idées erronées des agitateurs européens. Il sait bien que l'homme considéré est celui qui brave les difficultés et les surmonte. Il est encore bien persuadé qu'on ne peut avoir une existence heureuse qu'après avoir supporté des peines, et que si quelqu'un a pour fiancé une belle fille, il doit supporter avec patience les sommes qu'il aura à dépenser. Notre âme est la seule chose de valeur que nous possédions et nous ne voulons vivre qu'honorablement, attendu que la vie méprisable est pire que la mort. » Alors ça s'accompagne dans ces discours, dans ces campagnes de presse, de panégyriques de Rabi présenté en héros national et en défenseur de l'islam. On exalte l'armée dont on surestime la force, je cite, « Nous sommes bien sûr que dorénavant, tous les journaux étrangers s'occuperont à publier toutes les nouvelles de l'émir prince Ahmed Bey Orabi, le représentant de l'armée égyptienne, et s'empresseront de citer sa conduite et ses qualités, et la plupart de ces journaux orneront leurs feuilles de son honorable portrait, mais ces journaux ne pourront publier que la vérité, c'est-à-dire qu'ils feront des éloges du savant Orabi Bey, qui est très versé dans la politique. Il connaît très bien l'histoire ancienne et moderne, et enfin, il possède une connaissance parfaite et approfondie de l'art militaire. Nous pouvons par conséquent le considérer comme le tiers du siècle, comme le tiers, enfin, monsieur tiers, hein, et le Bismarck de l'Égypte. Bismarck est toujours au pouvoir à ce moment-là, en Allemagne. Demandons tous à la Providence de nous conserver ce guerrier qui sans doute rendra un grand service aux indigènes. Nous savons tous, ainsi que les journaux étrangers, que la présence au Caire de cet officier supérieur vaut mieux que 500 000 hommes armés. Il sera la cause de l'avancement du gouvernement égyptien qui permettra à son Altesse le Khédive, avec l'assistance de son armée, de faire reculer les troupes de n'importe quelle puissance de l'univers. Et cette presse égyptienne de langue arabe s'en prend vivement aux journaux européens, comme le Time de Londres, qui affirme que les Égyptiens sont incapables de progrès. En général, la presse anglaise est accusée de calomnier les musulmans. Et comme souvent, enfin comme l'essentiel à cette époque, il faut bien comprendre que les journalistes, la presse arabe de l'époque, c'est une presse d'opinion, fondamentalement. Et que pour le reste de l'information, elle dépend des agences de presse européennes. L'agence Reuters, l'agence Havas, puisque nous sommes maintenant dans le monde des agences de presse, qui viennent juste d'apparaître, depuis une vingtaine d'années à peu près. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est par les agences de presse européennes que l'on s'informe sur l'Europe, mais les journalistes font des sélections à l'intérieur des agences de presse pour montrer ce que dit l'Europe ou ce que fait l'Europe. Enfin, l'Europe, pour eux, c'est essentiellement la France et l'Angleterre en 1881. Alors, pour l'instant, Shérif est en bonne position puisqu'il est à la fois l'homme indispensable, aussi bien pour l'armée, les conduves, les consuls et les notables. Ces derniers insistent pour que l'on convoque l'Assemblée des délégués qui avait déjà été réunie sous Ismaïl, donc le Majlis al-Nawab, qui sont élus par les chefs de village. Dans leur conception du monde, il n'est pas question d'établir un contrôle parlementaire, mais de bien informer le gouvernement des intérêts de la classe des propriétaires fonciers, qui sont les maîtres de la campagne égyptienne. À dire vrai, il se sent être l'Égypte. Ça, il faut bien comprendre, c'est le rôle essentiel de ces notables, qui sont les propriétaires fonciers, qui sont soit des Turco-Circassiens, soit des Égyptiens de souche. Mais comme ils contrôlent la terre en Égypte, ils se sentent être l'Égypte. Tewfik, à la demande de Sharif, publie le 4 octobre une loi prévoyant la création d'une constitution et le mode d'élection d'une chambre de délégués. Le mandat de la chambre est de discuter les questions d'utilité publique et d'émettre des avis sur les projets que le gouvernement lui soumettra. Ces travaux seront soumis à la sanction de la Chambre. Les circonscriptions seront fixées en fonction de l'importance de leur population. Dans les campagnes, le rôle de chef de village est absolument essentiel. Je cite un morceau de la loi. Les chefs de communes, appelés à ces fonctions par le vœu des habitants, représenteront de droit la totalité des électeurs de leur commune en choisissant au nom de leurs administrés dans leur circonscription le député chargé de les représenter. Donc, en réalité, c'est une chambre élue par les chefs de village, les Ramda. Hein, vous rappelez l'anecdote, elle est célèbre, l'archéologue français qui fait des fouilles et qui trouve une statue de scribe sort la statue du scribe et à ce moment-là, les paysans disent « Mais c'est le Cheikh el-Beled ». C'est le chef du village, c'est la fameuse statue de Cheikh el-Beled qui se trouve actuellement au Louvre, marquant la continuité historique de l'histoire de l'Égypte. Et bien plus tard encore, sous l'Égypte libérale, c'est-à-dire entre 1922 et 1952, on dira que ce sont les Ramda qui font les élections, qui font voter les paysans dans un sens ou un autre dans les élections égyptiennes. Donc c'est vraiment dans la société égyptienne le noyau de base du pouvoir, c'est-à-dire ces chefs de village qui sont des petits notables locaux et qui sont dans des rapports de clientèle avec les grands propriétaires et les grands notables. Donc, dans une lettre au Khedive, le Premier ministre, donc Sharif, explique le sens de l'entreprise. « Aussi bien votre conseil des ministres considère dès aujourd'hui comme un devoir de demander à votre Altesse de répondre aux vœux du pays en réunissant les notabilités de l'Égypte pour les consulter sur les besoins des provinces, leur exposer les défauts de l'administration et réaliser avec le concours de leur expérience les réformes nécessaires. Le gouvernement, en accord avec la Chambre, proposera de sages réformes en ayant garde aux droits du chef de l'État et de la situation particulière de l'Égypte. Les engagements internationaux de l'Égypte, en particulier en matière financière, ne pourront être modifiés qu'avec l'assentiment des puissances. Et les élections auront lieu le 23 décembre 1881. Alors, on voit très bien que là, on est encore dans une logique de consultation, de choura, au sens fort du terme. Il ne s'agit pas du tout d'une logique de représentation politique. La Chambre des notables est là pour informer le pouvoir des besoins de la société égyptienne, non pas pour décider à la place du pouvoir. Et grâce à cet appel à la formation d'une chambre des notables, on peut calmer la situation et les militaires égyptiens évacuent le Caire en octobre 1881. Donc, le consul de France, à ce moment-là, peut résumer ainsi la situation politique de l'Égypte. En deux années environ, l'Égypte a passé presque sans transition d'un régime despotique, un régime qu'il est difficile de qualifier, puisqu'il est impossible de dire où réside aujourd'hui le pouvoir effectif. Il n'est ni chez le Khedive, qui n'est plus qu'une sorte de formule, ni chez le Premier ministre, qui n'a pour lui que son prestige, ni chez les colonels qui n'ont point le droit pour eux, ni chez les notables qui sont divisés et dont le rôle ne fait que commencer. Alors que, grâce à Sharif, les choses ont l'air de se calmer, c'est l'arrivée de deux commissaires ottomans venus pour s'informer. Alors tout le monde, évidemment, fantasme sur l'arrivée des deux commissaires ottomans, puisqu'on a à l'esprit la déposition d'Ismaïl et celle de Medhat Pacha. Donc, on se demande s'ils n'arrivent pas avec un ordre de déposition venu de Constantinople. Et du coup, les Français et les Anglais décident de faire une démonstration de force pour, entre guillemets, protéger la dépendance de l'Égypte. C'est-à-dire, selon la règle de la diplomatie de la canonnière, la France et l'Angleterre envoient chacun cuirassé au large d'Alexandrie. Donc là, vous avez la représentation du cuirassé français de l'époque, c'est l'Alma. Vous voyez que nous sommes à une époque de transition, puisque nous avons déjà des navires cuirassés qui sont à vapeur, mais il y a encore une navigation à voile possible. Pour moi, ces images-là représentent exactement l'univers de Jules Verne, si vous vous rappelez les gravures d'Hetzel. C'est ce caractère très typique des années 1880, où on est à la fois encore dans l'ancien et complètement dans la modernité. Je vous rappelle que l'électricité commence dans les années 1880 en utilisation industrielle en Europe pour l'éclairage et différentes autres choses du même genre. En fait, les commissaires ottomans, ils ne sont pas du tout venus pour déposer le Khedive, ils sont venus parce que Abdelhamid est obsédé par la fameuse conjuration arabe qu'il voit partout depuis la chute de Midat. Donc la première chose que fait le Khedive et le Premier ministre, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de conjuration arabe en Égypte et que l'Égypte est tout à fait satisfaite de sa situation à l'intérieur de l'Empire ottoman, que la Constitution, c'est pas important, que la Chambre des députés n'est que consultative et pas, ne se mêlera pas de politique. Et les conseillers ottomans disent « Oui, mais d'accord, mais elle ne prenait pas de fonctionnaires européens. » Et les Égyptiens répondent « On voudrait bien, mais on ne peut pas, parce que les Européens nous ont imposé de recruter des fonctionnaires européens. » Ensuite, les commissaires ottomans vont interroger les colonels sur les événements et ils répondent qu'ils sont soumis aux autorités. Donc, ils ne reçoivent qu'un cours de morale civique, si j'ose dire, de la part des commissaires ottomans. Il faut qu'ils aient une obéissance inconditionnelle au pouvoir et défendent la relation entre l'Égypte et le gouvernement ottoman. Le Khedive est le représentant du sultan. Celui qui obéit au Khedive obéit au sultan. Celui qui s'oppose au Khedive s'oppose au sultan et donc au précepte du Coran. C'est logique, c'est une vision libérale de l'islam. On peut dire. Alors, la réponse va dans le même sens. L'armée n'a jamais remis en cause l'autorité et la suprématie du sultan de la nation musulmane en Égypte. Alors, pour nation, ici, c'est Mullah et pas Umma qui est utilisé dans le texte. Elle n'a agi que pour redresser la politique de Riaz qui a porté tort à la patrie, le sultan et le Khedive. Tous les musulmans doivent s'allier pour défendre l'Empire ottoman. Les notables font des déclarations identiques. Et pour conclure, tout le monde reçoit des décorations ottomanes, puisque selon le principe bien connu de Napoléon, on gouverne les gens par des hochets. Et donc on distribue des Nissan, je ne sais pas quoi, à foison. Ensuite, par hasard, et le commissaire ottoman rencontre Orabi, qui par hasard se trouve dans le delta du Nil. Et il donne sa version des événements et marque qu'il n'y a pas de rébellion et qu'il est obéissant au sultan. Donc les Ottomans sont partis, les deux commissaires sont partis au moment où des cuirassés français et britanniques arrivent devant. Alexandrie, et donc comme leur présence est devenue inutile, les deux bateaux repartent immédiatement. L'affaire est peut-être considérée comme close, mais avec toujours cette situation habituelle, c'est que si les relations sont excellentes entre Paris et Londres, elles sont exécrables entre les consuls de France et de Grande-Bretagne sur le terrain. Il faut bien comprendre que nous sommes maintenant en temps réel. C'est-à-dire que par télégraphe, Paris et Londres échangent constamment des informations et renvoient des instructions à leurs consuls qui les informent réciproquement. Et donc régulièrement, Paris et Londres sont obligés de rappeler à leurs représentants sur le terrain que la règle, c'est l'entente. Alors que sur le terrain, les consuls soupçonnent toujours les autres de pires intrigues, de complots, etc., selon la règle des choses. Alors, les Français sont persuadés que les Britanniques cherchent à susciter du désordre afin de créer les conditions d'une intervention militaire qui conduirait à une occupation britannique. Les Français regardent plutôt avec sympathie le réveil national de l'Égypte, qui leur paraît plutôt orienté, et ils sont hostiles à la trop grande présence des fonctionnaires britanniques en Égypte. Et du point de vue français, l'Égypte aux Égyptiens, ça veut dire éliminer le maximum de fonctionnaires britanniques pays. En fait, il y a un accord dit de statu quo entre les Français et les Anglais qui fait que dans l'administration égyptienne, les positions sont gelées entre les Français et les Britanniques. En cas de vacance d'un poste, c'est obligatoirement quelqu'un de la même nationalité qui doit lui succéder, ce qui, évidemment, a pour inconvénient d'interdire le déroulement normal des carrières, puisqu'un subordonné d'une nationalité ne peut espérer accéder à une fonction supérieure détenue par une personne d'une autre nationalité. Pour mémoire, je le rappelle, parce que c'est intéressant, c'est Après l'entente cordiale de 1902, la France conservera dans l'accord de l'entente cordiale le poste des directeurs des antiquités en Égypte. Ce sera toujours un Français, jusqu'à la révolution de juillet 52, qui tiendra la direction des antiquités, souvent un professeur du Collège de France, mais ça c'est autre chose. Simplement parce que cette règle de poste réservé à des Européens d'une certaine nationalité avait été conservé jusqu'à 1952 dans un certain nombre d'institutions égyptiennes. Alors, ça c'est un problème aussi qu'on va avoir de façon récurrente jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand les gens locaux lisent la presse européenne, ils prennent les articles de la presse européenne comme des déclarations gouvernementales. Donc il suffit qu'il y ait un article un peu incendiaire d'un journal européen pour que les locaux pensent que c'est la décision locale, enfin, du gouvernement. Ainsi, il y a un article du Times de Londres du 19 octobre 1881 est compris plus ou moins comme une prise de position officieuse. Ce qu'on reproche aux Égyptiens, c'est leur hostilité au contrôle anglo-français. Et l'article du Time dit qu'il n'existe pas en Égypte, même sous une forme rudimentaire, d'éléments d'un système constitutionnel représentatif. La Chambre des délégués sera dominée par la clique des grands propriétaires qui s'en prendra une nouvelle fois à la trop grande présence des fonctionnaires européens. On accuse les étrangers de coûter trop cher. Alors, cet argument, dit l'article, a toujours été utilisé, par exemple, en Inde, par les babous. Vous savez, les babous, ce sont les fonctionnaires bengalis, les babous, qui contestent la domination de l'Indian Civil Service sur l'administration indienne, puisqu'à l'époque, dans l'Indian Civil Service, il n'y a que des Britanniques. Ça changera après 1914. La thèse européenne, c'est de dire que certes, une administration européenne coûte plus cher qu'une administration indigène, mais qu'au long terme, c'est plus efficace et moins cher parce que l'administration européenne est plus intègre et a une plus grande productivité. Céder l'Égypte aux Égyptiens serait abandonner l'Égypte à une administration égyptienne. Enfin, l'article du Time dit que l'Égypte est la clé de l'Inde et l'ascendant britannique dans ce pays doit être maintenu et renforcé. On doit s'en tenir au contrôle anglo-français, mais il est clair que du fait de l'Inde, les intérêts britanniques en Égypte ne peuvent être subordonnés à ceux d'une autre puissance. Les autres puissances et le peuple égyptien doivent comprendre que l'intérêt britannique est l'intérêt suprême. Bon, ça, ce n'est qu'un article de journal, du principal journal britannique, mais c'est interprété, comme quasiment une déclaration gouvernementale britannique. Et du côté de la presse arabe, on répond que la défense de l'Égypte et la défense de l'islam, c'est la même chose. Et on va se créer un petit scandale dans le style même bien connu jusqu'à aujourd'hui, une vieille pratique, mais ça commence à cette époque. On découvre qu'un journal francophone qui s'appelait L'Égypte aurait traité le prophète de faux prophète. Alors, la citation exacte, c'est « Il faut moins reprocher à Omar, fanatique héritier d'un faux prophète, d'avoir fait brûler la bibliothèque d'Alexandrie, qu'à ces Romains civilisés de s'être montré presque indifférent aux doctes souvenirs de l'Égypte. » Alors cet article, évidemment, personne ne l'avait lu avant qu'il ne fût traduit en arabe par un journal arabe, ce qui, évidemment, a provoqué des violentes manifestations des étudiants de l'université islamique d'Al-Azhar. Et le gouvernement égyptien interdit le journal, et le consul de France fait expulser d'urgence le journaliste français vers l'Égypte. Alors là, on est dans les subtilités. Le consul de France se sert de pouvoir attribuer au consul, par l'ordonnance de 1778 sur les échelles du Levant, qui donnait au consul de France la possibilité d'expulser des ressortissants français qui créaient des troubles à l'ordre public. C'est la règle. C'est le fait que le texte de 1778 n'a pas été abrogé, bien que ce soit la seule fois depuis longtemps qu'on l'ait utilisé. Alors, les observateurs notent que le journal et le journaliste avaient été subventionnés par Yas Pacha et que donc on pouvait penser que le but était bien de provoquer des troubles. Et de façon plus cynique, le consul pense que le journaliste a fait exprès de publier cette attaque contre le prophète afin de se faire interdire et de là ensuite obtenir une forte indemnité de la part du gouvernement égyptien selon le système des capitulations. Du coup, à ma connaissance, c'est la première affaire d'attaque contre le prophète enregistrée entre un journal d'origine européenne, même s'il est en Égypte. Une première réaction de ce genre. À l'époque, on lit peu, on est en France, enfin en Égypte, ce qui se dit en Europe sur le prophète et qui n'est parfois pas d'une très grande gentillesse. Alors, cet incident a provoqué une forte inquiétude dans les colonies étrangères. Les Britanniques trouvent que les Français ont cédé un peu trop facilement. Vous voyez là un extrait d'un journal français d'Égypte de 1880. Et voilà comment il fait sa revue de la presse arabe en disant « l'esprit des autres ». C'est un peu comme, vous voyez, ils se considèrent comme chez eux, voire comme eux aussi, ces Français d'Égypte, enfin ces francophones d'Égypte, ces étrangers, comme propriétaires, parce qu'il faut comprendre que le français est la langue vernaculaire des colonies étrangères en Égypte. Il n'y a pas que les Français, il y a les Italiens, les Grecs, les Syriens, etc., qui utilisent le français comme langue d'expression et qui lisent cette presse. Alors, inévitablement, avec le désordre politique, il n'y a pratiquement plus de censure, donc des temps de plus en plus virulents entre la presse d'origine européenne, s'exprimant en langue européenne, essentiellement en français, et la presse dite arabe, parce qu'elle s'exprime en langue arabe, alors avec un système pervers, puisque les journaux arabes font une revue de la presse sélectionnée de la presse européenne et, les Européens font une revue de presse sélectionnée de la presse arabe, ce qui fait que chacun verse de l'huile sur le feu en permanence. Et par exemple, du côté de la presse arabe, on cesse de parler de la question de l'endettement de l'Égypte pour évoquer tout simplement le danger européen encore récemment démontré par la conquête française de la Tunisie et le terrible régime de répression dans lequel vit l'Algérie. Et là aussi, on marque que la prétention européenne à exercer la civilisation est une hypocrisie totale parce que la civilisation européenne n'est que fondée que sur la force et sur l'immoralité. Elle cherche à corrompre les musulmans et les conduire à l'apostasie. Il faut que tous les musulmans s'unissent pour s'opposer aux Européens et libérer les peuples musulmans opprimés, pour certains, Ourabi est le protecteur et le défenseur de l'islam, le Bismarck de l'Égypte. On exige qu'on puisse enseigner la modernité dans sa propre langue, culture et religion, avec un enseignement proprement musulman. Là, on a, dès 1880, une spécificité vraiment égyptienne qui est que le politique bascule très vite sur le culturel. Dans les affaires égyptiennes, c'est au sens où les Égyptiens identifient étroitement leur culture à l'islam, mais Du coup, la culture européenne peut devenir une agression culturelle contre l'islam et contre l'Égypte. Thème qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le Proche-Orient de cette époque, mais qui donnera naissance plus tard aux frères musulmans et encore plus tard à des tas d'autres phénomènes en Égypte de ces mêmes genres. C'est en ce sens-là que c'est une spécificité. On parlera par exemple d'agression culturelle en Égypte, alors que je ne vois pas dans d'autres pays de la région parler d'agression culturelle. Du côté européen, on commence à s'en prendre, à avoir peur de la virulence de la presse arabe et musulmane, et on dénonce le fanatisme. Les journaux arabes, mais tenus par des chrétiens libanais, comme El Aham, les pyramides, l'actuel grand journal égyptien, mais qui commence à paraître dans cette période, et qu'à l'époque, un journal tenu par des chrétiens syriens, les frères Takla, dénonce le fanatisme. Et donc, les clivages deviennent nets entre les modérés d'un côté et les radicaux de l'autre. Et les radicaux exaltent la personnalité de Rabi. C'est à ce moment-là que notre ami Blount revient. Alors, il dit que ces mois d'automne qu'il a vécu au Caire, l'automne des 1881, ont été les plus heureux que l'Égypte n'ait jamais connus dans son histoire. Toute la population participe à un grand projet national. Les turco-circassiens sont rassurés par leur retour au pouvoir et le projet constitutionnel. Les Fallah voient la fin des privilèges de l'élite. Tous s'unissent pour s'opposer à la domination européenne. L'esprit de liberté domine le pays. Et c'est à ce moment-là que Blount fait la connaissance d'Orabib, avec qui il sympathise et il va devenir l'un des conseillers d'Orabib. Il marque que le sentiment anti-européen est lié aux excès des ingérences européennes dans la vie du pays, ainsi que du comportement licencieux de certains Européens protégés par la capitulation, c'est-à-dire les cafés chantants, les bordels, etc., en particulier à Alexandrie. L'amertume des musulmans est forte à la suite de la conquête française de la Tunisie. On accuse les Français d'avoir profané les mosquées et outragé les femmes musulmanes. En revanche, les Blount, les relations sont excellentes entre musulmans, chrétiens et juifs égyptiens qui sont tous pour la Constitution. Alors, Blount va se donner comme mission de faire la médiation entre le consulat britannique et les chefs du parti national. Il marque à juste titre que les consuls ne connaissent que Sharif el-Khedive, ils ne connaissent pas les hommes du Parti national. Et de le plus, il faut essayer d'éclaircir les malentendus avant que les affaires deviennent trop graves. Libéraux britanniques, parce que les libéraux sont au pouvoir avec Gladstone, et républicains français devraient quand même accorder leur soutien au mouvement constitutionnel en Égypte. Sinon, dans quel monde on se trouve? Donc, la question qui va devenir centrale à ce moment-là, c'est la question de l'augmentation des effectifs de l'armée égyptienne. La Grande-Bretagne est hostile parce qu'elle considère que d'augmenter d'un tiers l'armée égyptienne, c'est augmenter d'un tiers les charges financières que coûte l'armée au budget égyptien. L'Égypte, pour les Anglais, n'a besoin qu'une force de police nécessaire pour mettre de l'ordre chez les Bédouins et éventuellement dans la rue égyptienne. Et donc, ce que les Anglais suggèrent, c'est tout simplement qu'on mette les officiers égyptiens à la retraite en leur donnant des retraites solides, comme ça, ça les calmera. Alors, les Français, eux, avaient proposé aux Britanniques de faire un condominium militaire sur l'armée égyptienne, en encadrant l'armée égyptienne d'officiers français et britanniques, mais ça, les Anglais n'y étaient pas favorables. Alors là, on va faire la pause parce qu'il est -5.